Bienvenue sur Oser, le podcast qui part à la rencontre des alumni de l'enseignement supérieur qui ont fait basculer leur vie professionnelle pour s'investir dans la construction d'un monde durable. Ils nous parlent de leur parcours et de ce qui a motivé leur reconversion vers un métier qui œuvre au bien commun. Nous évoquons avec eux les francs changements, comment ils ont osé sauter le pas et leurs engagements actuels. Épisode 28. Je reçois Michael, ingénieur de formation, qui s'est lancé en indépendant il y a quelques mois afin de mettre fin au grand écart entre sa vie professionnelle et ses valeurs. Il nous parle de sa nouvelle activité de facilitateur d'atelier en utilisant les principes de la gamification au sein d'un collectif. On discute du statut d'indépendant, de la difficulté de changer les entreprises de l'intérieur et de l'entrepreneuriat. Bonne écoute!
Bonjour Michael.
Hello.
Michael, tu as 31 ans et tu es ingénieur de formation. Après plusieurs années dans des groupes industriels comme Safran, tu as décidé de tout quitter pour te lancer en indépendant. Tu utilises le jeu et la gamification pour faire de la sensibilisation. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et ce que tu fais actuellement ?
Yes, ben, du coup, effectivement, ça fait un an à peu près que j'ai passé le pas. Pour donner le début de mon parcours, moi, j'ai commencé effectivement par une... Après les études bac scientifique, etc., par me lancer sur une formation d'ingénieur, donc en production logistique et généraliste mécanique. Donc avec, bah en fait, c'était un peu aussi le côté où fallait quelque chose qui ait du débouché. Il y avait aussi une envie de pas forcément trop choisir non plus, parce que c'est pas toujours facile de choisir une voie professionnelle. Et du coup, oui, je suis allé vers une école donc, qui s'appelle Supméca à Saint-Ouen, un peu au nord de Paris, pour faire une filière généraliste mécanique avec un côté du coup production logistique, parce qu'à l'époque, j'aimais beaucoup l'aspect transverse. J'ai donc fait ces 3 ans d'école, j'ai fait pas mal de stages dedans, et ça me plaisait bien, c'était quelque chose qui... Voilà, ça me permettait de découvrir aussi le monde industriel en pratique, en allant... J'ai eu la chance de travailler un petit peu dans des grandes structures et dans une start-up sur mon stage de fin d'études qui fabriquait des bornes de recharge pour le véhicule électrique et les systèmes intelligents qui vont avec. Et du coup, suite à ce stage, j'ai continué un petit peu chez eux pendant encore 6 ou 7 mois. Et après, en fait, si on fait un résumé... sur les 6 ou 7 ans après, j'ai travaillé du coup pour le groupe Safran, en particulier sur la filiale qui s'appelait Snecma, qui fait des moteurs d'avion, et donc dans des rôles de chef de projet industriel. Donc d'abord sur des postes plutôt précaires en prestations intellectuelles et intérim pendant pas mal d'années, puis directement chez Safran. Sur ces postes-là, parce que du coup j'ai eu plusieurs fois le même poste, mais sur des pièces différentes ou des projets un peu différents, ça m'a beaucoup plu sur la découverte des différents métiers techniques, sur le côté relationnel, puisqu'à chaque fois j'étais responsable d'une équipe projet en interne et de faire le lien avec des équipes projet fournisseurs en externe, et là ça pouvait être à l'international, avec pas mal de cultures différentes, puisque j'ai pu travailler... avec des gens un peu sur tous les continents, et avec aussi des sujets avec quand même encore une bonne part aussi de technique, de challenge, mais voilà, ça pouvait, un des points que j'aimais beaucoup dans ce métier-là aussi, c'était que les challenges d'un jour n'étaient pas les mêmes de celles de la semaine suivante ou de la semaine d'après, puisque un coup on avait des choses plutôt sur des aspects techniques, parfois c'était plus de l'organisation ou du commercial. Donc j'ai fait à peu près... effectivement, 6-7 ans dans ces métiers-là. En parallèle, il s'est passé 2 choses qui sont quand même assez importantes pour expliquer comment j'en suis arrivé à la suite. Je pense que du coup, il y a 4 ans même maintenant, donc ça doit être, même si c'est pas toujours évident de savoir exactement où est le point de bascule, j'ai commencé à sentir que la gestion de projet classique, ça m'ennuyait un peu parce qu'on n'embarquait pas forcément assez les équipes, parce que ça finissait par se ressembler un peu, parce que les projets étaient quand même souvent ressemblants sur ce qui allait se passer. Si je vous donne un exemple, mais si on construit un pont, alors pour le coup, c'était pas le cas, mais on sait très bien quelles vont être les différentes étapes. Ben, sur une validation de pièces aéronautiques, c'était pareil. On savait à peu près quelles allaient être les différentes phases du projet, comment ça allait avancer et qu'on allait arriver au bout à la fin. Et donc, je me suis intéressé à tout ce qui était autour de l'innovation, du management de l'innovation, parce que typiquement, bah, tous les projets d'innovation, d'entrepreneuriat sont des projets où on ne sait pas exactement où on va, et du coup qui demandent beaucoup plus de mobiliser, d'avoir une attitude potentiellement beaucoup plus horizontale, d'aller solliciter aussi des domaines beaucoup plus variés. Et donc ça, c'est un des premiers points de bascule, puisque j'ai commencé à m'intéresser à beaucoup de choses à côté du travail. Je pense qu'on pourra revenir dessus, mais que ce soit dans le milieu associatif, j'ai pris des cours en management de l'innovation au CNAM à Paris en cours du soir, et que j'ai presque poussé, enfin, où j'ai suivi tous les cours d'un master en management de l'innovation. Et donc ça a permis de préparer la suite et puis de m'ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Et le deuxième point important, c'est que bah, j'ai commencé à écouter, lire des choses, en particulier un livre de Philippe Biwix qui s'appelle « L'âge des low-tech », où j'ai commencé aussi à ouvrir les yeux sur les enjeux climatiques, les enjeux de société qui viennent aussi avec toutes les crises environnementales qu'on est amené à traverser. Et donc, pour moi, il a commencé aussi dans un coin de ma tête à se mettre qu'il fallait que je contribue dans une manière qui fait sens à tout ça, et que probablement je ne pourrais pas m'arranger sur ma conscience avec le fait de produire des moteurs d'avion non plus pendant longtemps. En tout cas, il y avait quelque chose qui n'allait pas à d'un côté sentir qu'on va dans le mur sur le plan du climat, et de l'autre de participer à produire de plus en plus de moteurs d'avion. Donc voilà, j'ai un peu ces deux points-là qui ont fait. Alors ça a pris du temps parce que j'ai pris le temps d'explorer aussi les voies de l'intrapreneuriat, de changer la boîte de l'intérieur, de tester si je pouvais aller sur un autre poste qui fasse plus sens. J'ai pris un peu le temps de construire ça, et c'est arrivé jusqu'à du coup en octobre 2019 à quitter le groupe Safran pour lancer mon activité.
Avant que tu nous parles de ce que tu fais aujourd'hui, tu disais que tu as fait un peu d'intrapreneuriat au sein du groupe Safran. Est-ce que tu peux peut-être détailler un petit peu ce que tu as tenté de faire pour changer le groupe de l'intérieur après cette prise de conscience ?
Oui, exactement. Bah, du coup, alors pour dire d'où ça vient un petit peu, en fait, sur un des cours du soir au CNAM, un intervenant vient nous parler de comment il a monté un Fab Lab dans sa boîte, et il a fait changer les choses, et il me parle d'une super association qui s'appelle Les Activateurs, qui réunit pas mal de personnes qui ont décidé de faire bouger des choses dans leur société, et qui ont un peu besoin à la fois de se donner des idées entre elles et de se recharger les batteries, parce que c'est pas évident de faire bouger une boîte de l'intérieur. Et du coup, bah, j'ai commencé à m'immerger, d'avoir des exemples, de voir comment on pouvait faire. Et si je dois donner un exemple concret, en fait, j'ai aidé un groupe qui était déjà en place, qui s'appelait et qui s'appelle d'ailleurs toujours le groupe pour la préservation de notre environnement, qui était dans une filiale du coup de Safran, qui était la mienne, qui était en fait un collectif de salariés qui a décidé de commencer à se réunir sur la pause de midi en disant bah, en fait, nous personnellement, on est engagés sur les sujets climat, environnement dans notre vie personnelle, et on aimerait bien amener un peu plus de ça au travail. Et du coup, là-dessus, finalement, mon rôle et comment j'ai pu les aider, ça a été sur comment on peut finalement faire vivre ce collectif avec une certaine horizontalité, avec une indépendance quand même vis-à-vis de la direction, puisque c'était un collectif un peu autoproclamé qui avait décidé de prendre du temps pour faire ça. Et après, ça a été quand même mon rôle et le travail qu'on a fait ensemble avec cette petite équipe aussi, ça a été d'aller se reconnecter finalement aux différents acteurs dans la société pour dire, ben, par exemple, il y avait un processus d'innovation participative pour que les salariés puissent pousser des idées en avant pour améliorer la sécurité, pour améliorer la productivité potentiellement. Et ben, on a dit, ben tiens, les idées sur améliorer l'impact carbone, améliorer les déchets, souvent elles n'aboutissent pas. Donc on a été travailler avec les différents acteurs, regarder pourquoi elles n'aboutissent pas. Je vous la fais courte, mais souvent, c'est parce que, en fait, c'est des idées qui demandent des mises en application très transverses qui ne dépendent pas forcément juste d'un manager au-dessus, mais de beaucoup plus d'acteurs dans la société. Et donc, on a essayé de travailler, de pousser ça, d'aller aussi faire du lobbying interne quelque part chez les différents acteurs, au RH, en RSE, et dans les différentes, même aux moyens généraux sur la partie aménagement, etc., pour justement que ces idées puissent avancer. Et alors, c'est une initiative qui continue toujours et qui perdure et qui a eu un certain succès aussi, qui a été mise en avant dans le groupe. Mais sur les points où on peut dire qu'on a eu des réussites quand même, c'est qu'on a réussi à faire passer un peu plus loin ce discours-là et à ouvrir un espace de dialogue aussi pour des salariés qui avaient envie de parler de ces sujets-là dans la société.
Mais du coup, toi, ça t'a pas suffi ou tu avais envie de faire autre chose? Pourquoi, en fait, pas avoir continué à essayer de changer de l'intérieur?
Et ben, en fait, il y avait un peu, effectivement, ça reste un pourcentage minime du temps de travail qu'on prenait pour faire ça. Ça reste potentiellement des petites actions, entre guillemets, qui n'enlèvent pas le fait non plus qu'on reste potentiellement dans une société où on n'est pas forcément OK avec l'impact général de la société. Et effectivement, il y a un côté aussi un peu, et pour en avoir côtoyé beaucoup des gens qui font ça de l'intérieur, c'est quelque chose d'hyper utile parce que pour moi, je pense que ça fait bouger la culture des différentes entreprises. Et pour le coup, faire bouger la culture, c'est des choses qui prennent des années et de l'énergie. Donc, je pense que c'est utile. Après, il y a un petit peu à la fois un peu d'épuisement parce que ça peut être fatigant parce qu'on se prend beaucoup de murs. Potentiellement, et moi il y avait aussi l'envie que effectivement sur les 90% du temps qui restait, c'est de vraiment pouvoir faire des choses et mettre en pratique aussi toutes les compétences que j'avais qui ne s'exprimaient pas dans mon travail.
Ok, merci pour ces précisions, Mickaël. Est-ce que maintenant tu pourrais nous expliquer un petit peu plus ce que tu fais aujourd'hui?
Yes, du coup aujourd'hui je me définirais comme finalement j'aide à des clients à créer des moments engageants et potentiellement les communautés aussi derrière qui vont suivre ce moment engageant. Dit comme ça, c'est pas forcément très clair, mais du coup, je vais expliciter. Ça peut être du coup des ateliers participatifs, ça peut être des moments de jeu. Ça va être mes principaux deux outils, c'est l'intelligence collective et le jeu. Et donc, effectivement... moi, je vais souvent être contacté avec quelqu'un qui veut organiser une demi-journée, une journée, une série d'ateliers sur un sujet précis, potentiellement un sujet de sensibilisation ou un sujet pour embarquer finalement des bénéficiaires sur un programme, sur quelque chose. Et je vais les aider en fait à concevoir comment on peut animer ce moment, que ce soit en distanciel ou en présence des gens. Et aussi avec quels outils et quel dosage potentiellement aussi d'ateliers sérieux, plus sérieux, facilités avec où finalement on va faire beaucoup participer les jeux. L'exemple le plus courant, ça va être du brainstorming, ça va être creuser des idées, mais c'est aussi comment on les sélectionne derrière, comment on les choisit, comment on les prototype, comment on avance de façon finalement sécurisée aussi pour le groupe pour qu'on puisse assurer que la matinée, la journée soit productive. Et je peux aussi effectivement intervenir avec des casquettes autour du jeu, donc avec une partie potentiellement serious game ou jeu pédagogique, où on va être là à réaliser un vrai jeu, potentiellement un jeu de société, une escape game ou quelque chose d'autre, pour vraiment sensibiliser ou faire apprendre des choses. Et une deuxième casquette que j'aime beaucoup actuellement aussi, c'est la partie gamification. Donc là, on est vraiment plutôt à aller appliquer des éléments qu'on retrouve dans des jeux ou des techniques de création de jeux à d'autres domaines. Dans des exemples courants qui sont donnés, vous avez par exemple des applications de course à pied qui vont motiver leurs utilisateurs. Il y en a une qui fait semblant qu'ils sont poursuivis par des zombies, on va être sur plus de la narration pour motiver. Il y en a une qui va plus jouer sur l'aspect social. Et voilà, moi dans l'idée, ça va être pareillement d'accompagner des clients qui vont me dire « Tiens, j'aimerais bien motiver les gens à aller interroger des clients pour construire leur projet entrepreneurial dans l'ESS, eh ben tiens, comment on peut motiver, comment on peut créer finalement des éléments de jeu qui soutiennent ces efforts-là finalement des participants au programme. Et donc ça, c'est sur mes outils un peu techniques. Mais en fait, un point très positif aussi, c'est que en fait, vu mon engagement, vu ma communication, je travaille aussi beaucoup avec des clients à impact positif, avec des clients dans l'ESS, avec des clients dans l'éducation et dans les enjeux sociaux aussi. Et donc ça aussi, c'est quand même quelque chose aussi qui est, finalement qui se recoupe bien entre mes différentes missions d'intervention et dans mon envie d'impact.
Et j'ai pas mal de questions qui me viennent pour avoir passé presque 10 ans dans l'univers du jeu vidéo pour ma part. Comment t'es venue déjà cette idée d'utiliser le jeu dans tes interventions? T'es un joueur à la base, c'est quelque chose que t'as découvert, t'as suivi une formation?
Alors, le jeu déjà, je pense que je suis effectivement joueur depuis enfant. Beaucoup les jeux de société, c'est quelque chose qui est resté. En plus, les jeux de société sont énormément développés ces dernières années. Et effectivement, dans ma vie étudiante aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup joué, pratiqué. Mais aussi, je me suis, en parallèle de mon travail, beaucoup intéressé à comment on crée ces jeux de société et même les jeux au sens plus large. Je suis aussi effectivement joueur de tout type d'expérience de jeu après au-delà. Beaucoup les escape games, par exemple, ces dernières années, du jeu vidéo, bien sûr. Et à titre personnel, un point important aussi, je trouve, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans le jeu. C'est vraiment le moment où on expérimente, où on est en train de tester, où on est en train de découvrir, tiens, ça marche comme ça, il se passe ça, si je fais ça, ce côté très expérientiel. Ah, le côté expérientiel, le côté... vraiment ce qu'on appellerait un peu, en anglais on appelle ça le play, c'est vraiment l'activité de jouer qui me plaît beaucoup. Et donc effectivement, j'ai eu l'occasion d'avoir quelques applications sérieuses de finalement ce goût pour le jeu dans le monde associatif avant de quitter Safran. Par exemple, avec une association qui s'appelle Enjeu Commun, on a animé des ateliers pour créer un jeu sur des thématiques environnementales à la Cité des Sciences pendant les résidences Muséocamp, donc c'était une occasion d'eux. Je connaissais déjà bien une petite scope qui est un partenaire régulier maintenant qui s'appelle Prismatic, qui a édité les Mechanic Arts, qui sont un jeu pour créer des jeux de société. Et donc j'avais déjà co-animé des ateliers aussi via cet outil-là. Donc j'avais vu aussi comment on peut expliquer aux gens comment créer des jeux. Et donc en fait, un peu naturellement, quand je me suis lancé, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de demandes sur comment rendre des moments plus ludiques et aussi beaucoup d'applications possibles. Donc, je me suis dit, c'est la bonne occasion finalement d'embarquer ça dans mon activité. Et c'était aussi peut-être un plaisir sur quelque chose où, avant, c'était quelque chose que j'avais complètement écarté en me disant, il n'y a pas de débouché dans le monde du jeu, sur le jeu pur divertissement. Et sur la question de la formation, aujourd'hui, je pense que j'ai fait beaucoup d'autodidacte sur le sujet. J'ai été... pas mal de conférences, de podcasts, de lectures sur comment on fait différents types de jeux et aussi du travail conjoint. Et là, je les remercie beaucoup avec Prismatic aussi, qui m'a permis finalement de travailler avec des professionnels du jeu et d'apprendre aussi en faisant. Et puis peut-être un dernier point, j'ai aussi eu l'occasion de tester différentes fois des game jams. Donc, c'est des week-ends où on se réunit pour créer des jeux. Et là aussi, c'était des bonnes occasions d'apprendre et de faire.
En tout cas, ça donne tout un tas d'idées et d'envie de tester ces différents événements et associations que tu mentionnes. Si on rembobine un petit peu, qu'on revient à l'époque de Safran, quand tu as décidé de quitter Safran, comment est-ce que tu as pris cette décision? Puisque c'est quand même, entre guillemets, un saut dans l'inconnu et en plus, tu quittes un emploi en CDI pour aller vers tu ne sais pas où. Donc comment est-ce que toi tu t'es senti? Comment est-ce que vraiment t'as rationalisé cette décision? Et comment les gens ont réagi autour de toi?
Ok, pas facile comme question. Ça a été un gros processus quand même. En fait, du coup, je rembobine un tout petit peu. J'ai quitté en octobre, en janvier 2019 à peu près. J'ai eu un gros coup de mou et de fatigue en mode ça va vraiment plus. Pourquoi ça n'allait plus? Avec le recul, c'est plus facile. En fait, il y avait aussi finalement de passer 8 heures par jour à un travail qui nous motive plus tellement, de compenser énormément par des activités associatives qu'on fait après le boulot, à côté, etc. Finalement, pour trouver, pour avoir l'impression de faire des choses qui font sens pour soi, plus la vie personnelle à côté, ça faisait un peu beaucoup. Donc à ce moment-là, je me dis, il y a quelque chose qui va vraiment plus. Je discute avec quelques amis, je prends un petit peu des temps de pause et je me dis, il faut que je fasse quelque chose. À ce moment-là, en fait, j'avais enfin, depuis un peu moins un an, hein, quelque chose comme ça, un peu moins d'un an même, mon CDI chez Safran que j'avais galéré à avoir. Et c'est un grand groupe industriel, c'est quand même une très belle société. C'est un CDI avec le contexte et tout. Je me dis, attends, faut que tu réfléchisses un peu. Tu peux pas plaquer ça comme ça, quoi. Donc dans la discussion, on me parle d'un programme qui s'appelle Switch Collective, qui est un programme. C'est un bilan de compétences 2.0, si on doit résumer, qui était un programme en présentiel avec pas mal d'exercices individuels aussi, et qui va finalement être là pour nous aider à nous poser des questions, de l'introspection, de creuser ce qu'on a envie de faire. Ça dure 6 semaines, et donc je me suis dit, vas-y, mets le temps et l'argent qu'il faut là-dedans, puisque ça te permettra un peu de pas prendre ta décision à chaud. Et en plus, j'avais quelques amis, quelques personnes aussi qui me disaient, attends, réfléchis un peu, etc. Et c'était pas juste des gens qui me disaient, ne quitte pas ton CDI, mais prends juste le temps de préparer et de bien réfléchir. Donc, je fais ce programme de 6 semaines, et pour moi, ça se confirme qu'effectivement, l'entrepreneuriat pourrait être une voie. Parce que ça aussi, c'était pas évident pour moi. C'est des choses où j'ai commencé à me renseigner pendant la période-là. Et du coup, à la fin de Switch Collective, avec un peu de temps pour expérimenter, pour faire des choses, là, ça devenait un peu plus clair pour moi. J'ai aussi eu la chance de faire une première mission en auto-entrepreneur à côté du boulot sur des jours de congé, ce qui m'a permis aussi de me dire, tiens, il y a moyen de faire de la valeur avec ce que je fais à côté, puisque c'était une mission en plein dans des questions de jeu sérieux. Et ça reste quand même que, effectivement, ça prend du temps, parce que c'était en janvier, et je pense que ma décision, finalement, elle a dû arriver vers à peu près mai, de se dire, ça y est, c'est bon, j'y vais. Alors, j'ai oublié un bout de ta question.
Non, tu es en plein dedans. C'était aussi par rapport à la réaction de ton entourage. Tu dis que c'est assez long. Certains pourront dire que c'est assez court. Il y en a qui mettent des années à sauter le pas, d'autres qui ne le font jamais. Mais au niveau de la réaction de ton entourage, de ta famille, de tes amis, comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce qu'ils ont perçu ce changement?
Alors, j'ai différentes réactions. J'ai des amis proches qui, en janvier, m'ont dit « attends un peu, réfléchis », et qui, arrivés en mai, m'ont dit « ça y est, t'as l'air d'avoir réfléchi, ça a l'air plus d'être sur un coup de tête, vas-y, on a confiance ». La plupart des autres amis, globalement, pareillement, m'ont dit « ok, t'as l'air d'avoir bien réfléchi ton truc, c'est ok », même si après, forcément, les questions qui viennent assez rapidement sont « mais est-ce que tu vas en vivre ?» etc. Les réactions après côté collègues, c'est beaucoup plus partagé, parce qu'en fait, je pense que on vient aussi pointer des choses chez eux potentiellement, parce que beaucoup de gens dans un grand groupe comme ça se projettent sur une carrière longue, sur du temps long. Certains y sont déjà depuis très longtemps et n'ont pas forcément osé ou voulu faire un pas comme ça. Donc là, effectivement, il y a les collègues qui ont dit t'as raison, t'as le bon âge, vas-y maintenant. Il y a aussi, effectivement, j'ai eu quand même certains collègues qui ont pu avoir des paroles un peu dures de t'es en train de faire une énorme connerie. Sur ces réactions là, c'est pas toujours facile à encaisser, même si on apprend à trier aussi. Mais en fait, le fait d'avoir déjà bien mûri la décision, de savoir aussi d'avoir été en réseau aussi avec d'autres gens qui se posaient les mêmes questions, etc., ça faisait que quand même c'était clair pour moi. Et dans les personnes aussi importantes, finalement, ça a été mes parents. Et pour le coup, eux, je crois, je leur ai annoncé au moment où c'était déjà décidé et bien en route, pas tellement par peur d'eux. D'échanger, etc., mais plus pour pas rajouter à la discussion et à l'incertitude. Et finalement, ils ont très très bien accueilli la décision, puisque pour un petit peu d'historique, mais c'est quand même pas du tout équivalent. J'avais démissionné d'un job en société de prestation intellectuelle quelques années auparavant, mais on n'était pas sur des. Mais à l'époque, ils m'avaient dit. On n'aurait pas fait ça, mais on te fait confiance. Mais là, arrivé à finalement cette démission de chez Safran, ils m'ont dit, écoute, la dernière fois, on t'a fait confiance, ça s'est bien passé. Là, on sait que tu as bien réfléchi, donc go. Et même si on n'en a pas forcément besoin, c'est toujours agréable en fait d'être soutenu dans ce type de décision.
Je reviens sur ta formation, ou en tout cas le programme que tu as effectué avec Switch Collective, parce que c'est la première fois qu'on en parle dans le podcast. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu peut-être le programme en soi, toi, ce que tu as fait, ce que ça t'a permis de découvrir sur toi et sur ce que tu voulais faire ?
Ouais, alors du coup, Switch Collective, pour donner les modalités pratiques, du coup, c'est sur 6 semaines. Et en fait, on va recevoir un petit exercice vidéo, quelque chose tous les jours. Et alors ça, c'était la formule à l'époque, ça a peut-être un tout petit peu bougé. Et du coup, avec aussi 6 réunions physiques en présentiel, donc avec 2 journées complètes en début et fin de programme, et 4 mardis soirs où on s'est réunis donc avec des formateurs. Moi, ce que j'avais apprécié et pourquoi j'avais choisi Switch, c'est parce que par rapport à d'autres accompagnements, ils n'étaient pas orientés sur démissionne et crée ton emploi et deviens entrepreneur. Vraiment, j'avais entendu que c'était un programme qui avait permis à certains de retrouver un autre poste en interne, une autre organisation, de faire la même chose mais dans une autre société. Donc moi, ça m'allait bien aussi, ce côté le programme ne force pas finalement à devenir entrepreneur, parce que sinon, pour moi, en tout cas, ça n'avait pas de sens, puisque finalement, ça m'aurait juste conforté dans la voie où je sentais peut-être que je voulais aller. Et donc, on a en début de programme beaucoup de phases d'introspection, de tests de personnalité, d'échanges, d'interroger ses proches. Et après, on va venir plus sur des phases d'exploration de tiens, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me motive en termes d'activité, en termes de cause que je défends. Et vers la fin, on vient plus sur des phases de construction du projet et de comment on y va. Moi, finalement, je suis arrivé, ça m'a bien... En fait, un des points importants, et je pense un des gros outils du programme, c'est qu'on vient finalement construire son pourquoi, quoi et comment. C'est-à-dire le pourquoi, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde. Le quoi, c'est quelles sont les activités dans lesquelles je me sens bien. Et le comment, c'est quelles sont les conditions finalement pratiques dans lesquelles je me sens bien. Et finalement, le fait de mettre à plat tout ça, par exemple, mon pourquoi, c'est finalement de créer des moments où les gens sont acteurs plutôt qu'être passifs. Et aussi dans le quoi, de voir que, par exemple, la gestion de projet, la coordination que je faisais chez Safran, c'était des choses qui me plaisaient toujours. Mais le contexte, par contre, dans le comment, de contribuer finalement à une entreprise qui ne respecte finalement pas vraiment les enjeux climatiques, ça ne m'allait plus. Et donc finalement, voilà, se rendre compte, bien reposer ça à plat, ça a été hyper utile. Ça a été aussi hyper utile finalement parce que cette petite boussole de... mon pourquoi, c'est ça, les activités que j'aime faire, c'est ça, et mes conditions pour travailler, l'autonomie, par exemple, qui sont importantes pour moi dans un poste, d'avoir cette petite grille de lecture, en fait, c'est hyper utile, même maintenant, pour accepter ou ne pas accepter des missions. Donc voilà, sur un outil très pratique, et je dirais le deuxième point, quand même, que j'ai beaucoup aimé chez Switch, c'est que quand on est en reconversion professionnelle, on a envie de parler de ça tout le temps parce que ça nous travaille beaucoup. Et à un moment, on a des amis qui ne se posent pas forcément ces questions-là actuellement. Et c'est assez génial aussi, ben, finalement, de trouver une promo d'une... je ne me rappelle plus exactement le nombre qu'on était, mais en tout cas, une promo où on peut échanger avec plein de gens, plein de parcours et qui se posent les mêmes questions. Ça a été une vraie soupape aussi pour moi, ça.
Et qu'est-ce qui a fait finalement que tu as décidé de te lancer en indépendant et pas de rechercher un emploi dans une entreprise ou un secteur qui te convenait mieux avec un environnement qui était en accord avec tes valeurs?
En fait, je me suis rendu compte qu'entre l'image de l'entrepreneuriat que j'avais avant, qui était l'entrepreneur solitaire, très concurrentiel, etc., et finalement qui adore le risque, qui fonce dans le tas, qui ne me correspondait pas forcément du tout sur la façon que j'ai de construire les choses et ce que pouvait être vraiment un freelance ou un entrepreneur, ça pouvait coller pour moi. Comment je me suis rendu compte de ça? En fait, il y a un podcast qui s'appelle toujours d'ailleurs Tribu Indé, qui est sorti, qui venait interviewer sur des interviews assez longs des freelances. Donc en écoutant ça, je me suis rendu compte que finalement, le quotidien de ces freelances, il n'était pas simple, hein, c'était pas digital nomade à Bali, les doigts de pied en éventail, mais il était constitué de pas mal de temps d'auto-apprentissage, de construction de ce qu'on fait, de réfléchir, d'avancer, de naviguer dans l'incertitude parfois, mais plus sur les missions, et puis beaucoup d'accompagner le client, de rassurer, etc. En fait, plus j'entendais ces gens-là, plus je me disais, mais en fait, ça correspond à des choses que j'aime faire et que je fais déjà. Donc en fait, ouais, d'écouter ça, d'en rencontrer aussi, c'est bête aussi, mais j'avais des entrepreneurs dans mon entourage, mais que j'avais pas, avec qui j'avais pas forcément discuté de leur partie professionnelle, ben pareillement, d'aller discuter, échanger avec eux, ça m'a rassuré aussi finalement sur le fait que l'entrepreneuriat pouvait être un bon moyen. Et il y avait aussi bêtement et simplement le fait que finalement mon activité, elle était difficile à trouver en salarié quelque part. J'ai aussi essayé de trouver potentiellement des postes en management de l'innovation, etc., des années avant. Et ce n'est pas forcément simple non plus, encore plus si vous rajoutez la composante ludique. Donc, il y avait aussi le fait qu'il fallait le créer finalement, cet emploi-là.
Si on se tourne maintenant vers le futur, comment est-ce que se profile l'avenir pour toi, à la fois au niveau personnel et professionnel?
Comment ça se profile? Moi, aujourd'hui, bah, ça fait à peu près un an que je suis lancé. Donc, pour être franc, effectivement, du coup, l'activité se développe progressivement. Je suis déjà content parce que j'ai pu travailler avec un certain nombre de clients. Pour donner quelques exemples quand même, j'ai pu travailler avec les Saventuriers, par exemple, qui travaillent sur l'éducation par la recherche et entre autres sur un projet d'animation d'une journée avec des éco-délégués sur les enjeux climatiques. Donc typiquement, c'est le type de client et de projet où aucun regret en fait de m'être lancé, puisque bah, c'est des gens avec qui j'aurais jamais travaillé autrement. Pareillement, j'ai pu accompagner des entrepreneurs, j'ai pu travailler là tout dernièrement sur des enjeux autour de l'insertion professionnelle et de faire se rencontrer des acteurs de l'insertion professionnelle. Donc là-dessus, déjà, un premier point, quand je regarde en arrière sur l'année qui s'est déroulée, je suis hyper content, hyper fier, et j'ai vraiment pas de regrets parce que j'ai pu faire tout ça déjà. Donc déjà, ouais, un gros point positif là-dessus. Après, effectivement, là, l'enjeu en cours et de la rentrée, c'est de construire la stabilité économique de tout ça, puisque moi, je suis à un stade où aujourd'hui, les missions, les prospects arrivent, ça démarre plutôt bien, mais après, effectivement, il faut stabiliser, il faut arriver à trouver le bon rythme, il faut trouver aussi l'équilibre entre le temps qu'on passe à développer son activité et le temps qu'on passe à produire et à travailler avec ses clients. Donc, vraiment plein de choses à faire, plein d'apprentissage aussi, hein. C'est aussi un de mes points quand je regarde sur l'année, j'ai appris énormément. Et effectivement aussi, quand même, un sentiment de m'être aussi beaucoup plus finalement réaligné avec les valeurs et ce que j'ai envie de défendre avec les clients que j'ai. Et donc, sur la perspective pour la suite, effectivement, là, c'est vraiment un enjeu de stabiliser tout ça et puis aussi d'arriver à trouver les bons partenaires, les bons fonctionnements qui vont bien.
Il y a une question que j'ai encore jamais posée, mais parce que, alors, ça fait pas mal de fois que j'interviewe des gens qui sont indépendants aujourd'hui après s'être réorientés. Est-ce que toi, tu envisages de rester indépendant ou est-ce que tu auras envie de faire grossir ton projet professionnel en recrutant des gens ou en montant une équipe autour de ça?
Alors aujourd'hui, c'est pas une question encore que j'ai beaucoup d'actualité, mais en fait, parce que voilà, j'ai déjà envie de stabiliser pour moi, etc. Mais effectivement, après, aujourd'hui, la première question qui se pose, c'est quel partenariat régulier avec qui je vais répondre régulièrement pour des clients. J'ai déjà effectivement un partenariat assez régulier avec Prismatic, du coup, qui est une petite scope de 5 personnes avec qui je suis assez aligné et sur les mêmes outils. Donc, j'ai ce genre de fonctionnement qui existe. Après, effectivement, sur le développement, la suite, je ne me l'interdis pas du tout. Alors, je pense plus m'associer ou collectif que d'aller forcément embaucher les gens. Aussi parce que, pour l'instant, j'ai une approche qui est... Parce que peut-être c'est un point intéressant. J'ai une approche qui est plutôt freelance qu'entrepreneur, dans le sens où ce qui est important finalement pour moi, c'est de développer personnellement ma capacité à accompagner des projets et pas forcément à chercher la croissance. Aussi parce que ça peut être un travers de la société en général parfois. Donc il y a aussi cette volonté de pas forcément aller chercher la croissance tout de suite. Et voilà, parce que j'ai aussi des lectures et des échanges intéressants sur l'entrepreneuriat où parfois, finalement, on perd un peu ce qu'on a gagné à vouloir absolument croître, embaucher, etc. Mais après, voilà, je suis assez ouvert quand même et je m'exclus même pas demain, dans 3, 4, 5 ans, par exemple, hein, de dire « tiens, je vais retrouver un emploi salarié parce que j'ai une structure ou un projet qui me tient à cœur ».
Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis sur en fait, un contre-modèle qui serait plus un collectif d'indépendants par rapport à l'entrepreneuriat un peu qu'on pense de manière classique en disant finalement je vais monter une entreprise, la faire croître et de manière un peu pyramidale recruter des gens en dessous pour travailler avec moi. C'est toi plus ce modèle-là, le premier sous forme de collectif d'indépendants que tu visualiserais le fait de travailler en groupe en fait.
Ouais, peut-être. Après, il y a un point important quand même, c'est qu'aujourd'hui, je suis en coopérative d'activité et d'emploi. Et c'est peut-être intéressant que j'explique du coup rapidement ce que c'est. En fait, une coopérative, donc ma coopérative d'activité et d'emploi s'appelle du coup Omnicité. Anciennement Port Parallèle, et en fait du coup c'est une si certains connaissent le portage salarial, c'est à peu près le même modèle, dans le sens où finalement je vais passer la période transitoire de démarrage, être finalement salarié dans une structure qui va me reverser mon chiffre d'affaires. Et la différence entre la coopérative d'activité et le portage salarial, c'est que la structure qui porte ça est une SCOP, donc une société coopérative, inscrite aussi dans l'ESS. Et pourquoi je parle de ce modèle-là à ce moment-là, c'est que finalement, je suis déjà dans une structure qui est composée aujourd'hui, on est 300 entrepreneurs qui sont déjà solidaires sur des valeurs communes, parce que beaucoup autour de l'ESS, sur différents types d'activités, et en mutualisant un certain nombre de moyens, par exemple, hein, pour la comptabilité, mais aussi finalement pour avoir des formations communes, de l'accompagnement en commun, des synergies en commun. Et donc finalement aussi, c'est pour ça que peut-être aujourd'hui, je n'ai pas non plus forcément envie tout de suite aussi d'aller vers une croissance en termes d'embauche, etc. Parce que finalement, j'ai déjà une structure où je peux faire pas mal de choses en commun, monter des... Et dans un esprit aussi collaboratif avec les autres entrepreneurs.
Merci, oui, c'est très très clair et effectivement c'est un modèle qui est très intéressant et c'est aussi la première fois qu'on en parle dans le podcast. Maintenant qu'on s'est concentré sur l'avenir et les perspectives, je te propose de revenir dans le passé, de sauter dans la DeLorean. Et si tu pouvais te parler à l'époque de tes études, revenir dans le temps et te donner des conseils ou des recommandations, te passer un message, qu'est-ce que tu te dirais ?
Bah si je pense qu'une des premières choses que je me dirais déjà, c'est de... Bah d'ailleurs, je l'ai en bonne partie fait, mais de profiter pour faire des projets, pour par exemple, dans le milieu associatif et étudiant, de prendre des choses en main sur les sujets qu'on a à cœur, de tester, de faire des choses avec des gens, de profiter de ce temps-là pour explorer. C'est marrant parce que sur les cours, etc., je ne sais même pas si j'aurais envie de me dire « fais autre chose finalement », parce qu'on pourrait se dire « tiens, finalement, mes cours d'ingénieur me servent plus complètement ». Parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est si important que ça. Et je pense qu'on a aussi besoin tous du parcours. On ne peut pas tout savoir à ce moment-là. Et je pense que si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est aussi parce que je suis passé par ces phases de voir ce que c'était l'industrie, de voir des choses, de comprendre un peu mieux le monde. Après profiter de la richesse aussi qu'on a sous la main, quoi, que ce soit sur internet avec tous les contenus qui sont accessibles, que ce soit dans les villes, les événements, les choses qu'on a autour de nous accessibles, d'aller voir des choses, d'aller rencontrer des nouvelles personnes. C'est pas évident à répondre parce que, par exemple, je ne sais pas du tout si je me... Et d'ailleurs, je pense que ça serait une assez mauvaise idée. Je ne pense pas que je me conseillerais « lance-toi dans l'entrepreneuriat en 2012 à la sortie de tes études ». Parce que je pense qu'on a besoin aussi de se construire, on a besoin de voir comment ça marche un peu le monde du travail aussi, pour finalement après interagir avec d'autres, avoir la confiance en soi qu'il faut aussi. Voilà un petit peu, elle n'est pas évidente cette question.
Non, en effet, elle est pas du tout évidente. Et du coup, je renchéris sur une autre question qui, à mon avis, n'est pas évidente non plus. J'ai pas mal de gens qui parfois m'écrivent, que ce soit des étudiants ou des gens qui se posent des questions pour savoir que faire de leur futur, vers où aller, comment commencer pour sauter le pas. Qu'est-ce que tu leur dirais à eux? Qui sont aujourd'hui déjà un peu dans cette dynamique de se poser des questions. Qu'est-ce que tu leur conseillerais ?
Alors moi, ce que je leur conseillerais, quelque chose que j'ai beaucoup fait, c'est d'aller, si vous sentez, moi, ça a été la facilitation, par exemple, d'animer des ateliers collaboratifs. Je me suis dit, tiens, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et pour moi, le milieu associatif a été un fabuleux terrain d'exploration parce qu'on a des enjeux moindres. On a des gens qui sont prêts à vous accueillir, même si vous n'avez pas la formation ou le bon truc exactement. Et ça permet de tester. Moi, j'ai par exemple fait un événement qui s'appelle Muséomix, où on vient emmener des gens dans un musée pendant 3 jours. Et finalement, on anime tout le processus collaboratif qui va avec ça. Ben, finalement, de l'avoir testé, pour le coup, ça m'a confirmé que ça m'a plu. Mais j'ai aussi fait plein d'autres choses où, en fait, en testant, je me suis dit, ben, en fait, ça, c'est moins pour moi. Je pense que... Enfin, en fait, souvent, une erreur que j'ai l'impression qu'on fait beaucoup en France, c'est de dire « il faut que je fasse la formation de 6 mois, 1 an sur ça pour voir si ça me plaît ». Je conseillerais plutôt d'aller tester. Et deuxièmement, un truc qui est aussi assez simple, que ce soit en vrai ou en visio maintenant, de proposer à quelqu'un qui fait déjà ce qui vous intéresse, est-ce qu'on peut prendre un café, est-ce qu'on peut discuter parce qu'en fait, quand on est jeune, on se censure, on n'ose pas aller déranger. Et en fait, la plupart des gens seront OK pour vous prendre un temps avec vous et puis vous en raconter un peu plus. Et vous aurez déjà une idée beaucoup plus claire du métier ou de l'engagement ou de ce que c'est. Je pense, tester et puis discuter avec des gens qui le font déjà ou qui sont déjà là-dedans.
Mickaël, je te remercie beaucoup pour ton témoignage, tes conseils et tes recommandations. Je te souhaite beaucoup de chance pour le futur. Tant au niveau personnel que professionnel. Et puis, je te dis à très bientôt.
Yes, merci beaucoup pour l'invitation et puis pour ce podcast. À plus.
Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, à mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous. C'est une aide très précieuse pour faire connaître le podcast et me permettre de continuer l'aventure. Oser a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. À bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, osez !